2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro.
En 1987, l'espion qu'on aimait, Roger Moore, tire sa révérence. À bientôt 60 ans, l'homme au 7 James Bond décide sagement de prendre une retraite bien méritée. Conscient du besoin de rajeunissement de la saga cinématographique, le producteur Albert R. Broccoli va alors confier le rôle du meilleur agent de Sa Majesté à un comédien shakespearien, soit Timothy Dalton. Dalton est un acteur britannique né le 21 mars 1946 à Colwyn Bay, au Pays de Galles. D'origine anglaise du côté de son père et italienne et irlandaise du côté de sa mère, Dalton grandit à Manchester dans le milieu du spectacle et découvre sa vocation dès l'âge de 16 ans en jouant au théâtre. Débutant au cinéma en 1968 dans le film « The Lion in Winter », Timothy Dalton sera alors approché cette même année pour interpréter le personnage de Bond dans le film « On Her Majesty's Secret Service ». Mais, en raison de son bas âge, il avait 24 ans à l'époque, Dalton refusera le poste qui ira alors à l'acteur George Lazenby. Puis, en 1971, suite au départ de Lazenby, Dalton fut de nouveau approché pour le rôle de 007, mais le tout fut oublié lorsque Sean Connery acceptera de reprendre ce dit rôle pour Diamonds Are Forever. Finalement, Dalton sera gardé en stand-by entre 1980 et 1985 pour les films For Your Eyes Only, Octopussy et finalement A View to a Kill, mais n'obtiendra le rôle iconique qu'en août 1986, succédant ainsi à l'acteur Roger Moore qui venait de prendre sa retraite du personnage légendaire. Dalton interprétera James Bond dans deux films, soit The Living Daylights en 1987 et License to Kill en 1989, et sa composition permet de rendre Bond beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche du héros de l'auteur Ian Fleming. Avec un regard d'acier, des gestes sobres et une conception très professionnelle de son métier d'espion, le personnage campé par Dalton se démarquera nettement de celle de ses deux grands prédécesseurs, soit Sean Connery et Roger Moore. Cependant, en raison de litiges entre Albert Broccoli, producteur des films de 007, et la compagnie Metro Goldwyn Mayer, la production du 17e film de la série, GoldenEye, sera repoussée de 6 ans, ce qui forcera alors Timothy Dalton à dire adieu au personnage mythique. C'est donc la période Dalton de l'univers de 007 que je couvrirai dans cette édition de Programme Double, une période qui couvrira deux films, le premier en 87 et le second en 89. Donc, sortez votre violoncelle et nettoyez votre Walter PPK parce que je vous propose ici une incursion spéciale dans l'univers Dalton de l'agent britannique le 007, James Bond.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Thank you. Eking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Ça commence très fort. Et on finit accroché à son fauteuil.
Ceci m'arrive de Gibraltar, trouvé près du corps de 004.
Mort aux espions, monsieur le ministre.
Elle a sûrement beaucoup de talent, cette jeune femme.
Thierry Bond.
Je vous jure bien que mon intérêt pour elle est purement professionnel.
Qu'est-ce que...
Ce modèle comporte des options intéressantes.
Nous avons perdu deux agents. Koskov vous a balancé.
Je dois mourir.
Éliminé. Tuez-le!
Qui que soit cette fille, elle se mène des cas où tuer n'est pas jouer.
Timothy Dalton et James Bond 007 dans Tuer n'est pas jouer.
The Living Daylight, ou Tuer n'est pas joué, est un drame d'espionnage qui a été distribué par les studios Metro Goldwyn Mayer le 29 juin 1987. Ce film d'origine britannique, d'une durée de 131 minutes, aura coûté plus de 40 millions de dollars à produire et ramassera plus de 191,2 millions de dollars au box-office international. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique John Glenn, lui qui nous a donné Aces, Iron Eagle 3, For You Eyes Only et Christopher Columbus, The Discovery. Au poste de producteur, on y retrouve Albert Broccoli, lui qui avait produit les films Goldfinger et Chitty Chitty Bang Bang, ainsi que Michael J. Wilson, ce producteur américain, qui lui a travaillé sur Spectre, Skyfall et GoldenEye. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Richard Maybaum qui lui a travaillé sur des films comme She, Octopussy et Tank Force, qui travaillera aux côtés de Michael J. Wilson, le scénariste américain qui avait travaillé sur les scénarios de For Your Eyes Only et Octopussy. Dans la distribution, on y retrouve Timothy Dalton dans le rôle de 007, Mariam Dabo, Joe Don Baker, Art Malik, John Rhys Davis, Jeroen Krabbe, Andreas Wisniewski, Thomas Whitley, Julie T. Wallace, Desmond Llewellyn et Caroline Bliss dans le rôle de Miss Moneypenny. L'agent secret James Bond est dépêché à Prague pour y faciliter la défection d'un général russe. L'affaire réussie, l'officier du KGB est alors confié au service secret britannique, mais lorsque celui-ci est kidnappé, 007 se doit de retourner à Prague et découvre que le général en question est de mèche avec un important trafiquant d'armes américain. Suite à l'annonce de la retraite de l'acteur Roger Moore du rôle de Bond, on approchera de nouveau l'acteur britannique Timothy Dalton pour interpréter le personnage de l'agent 007. Malheureusement, ce dernier n'était pas disponible, travaillant sur la production du long-métrage Brenda Starr, qui sortira en salle en 1989, ce qui forcera alors Eon Productions de se tourner vers l'acteur Pierce Brosnan, qui venait, lui, de conclure son travail sur la série policière Remington Steele, qui, elle, était présentée sur le poste de NBC depuis 1982. En effet, à cette époque, NBC avait pris la décision d'annuler la série après 4 saisons, libérant ainsi Brosnan pour le personnage de 007. Cependant, lorsque les hauts dirigeants de NBC apprirent l'intention de Broccoli d'embaucher l'acteur pour la franchise de 007, ceux-ci allaient revenir sur la décision d'annuler Remington Steele et approchèrent alors Broccoli pour signer une entente avec ce dernier qui permettrait à Pierce d'interpréter James Bond et par la suite de reprendre son rôle de Remington Steele l'année suivante pour une 5e saison, cherchant du coup à profiter de la popularité de la franchise de l'agent britannique au cinéma pour leur série télé. Durant cette rencontre, Albert Broccoli dira aux hauts dirigeants de la NBC que James Bond ne sera jamais Remington Steele et que Remington Steele ne sera jamais James Bond, ce qui voulait tout simplement dire que Brosnan allait interpréter seulement un des deux personnages, soit Bond, soit Steele. Le producteur donnera alors un délai de 6 jours à NBC pour prendre leur décision finale, décision qui sera annoncée durant cette 6e journée, comme quoi la compagnie décidera qu'il y aura une 5e saison à la télésérie Remington Steele. Cette annonce, malheureusement, mettra alors un terme aux chances de Brosnan d'obtenir le rôle si convoité de l'agent secret de Sa Majesté. Malheureusement pour ce dernier, NBC allait annuler la série après seulement 3 épisodes de 2 heures chacun, décision qui aura coûté à l'acteur plusieurs années additionnelles dans la peau de l'espion 007, puisque ce dernier reprendra sa chance quelques 9 ans plus tard avec le film GoldenEye. Ce sera finalement Dana Broccoli qui poussera alors son mari Albert Broccoli à contacter de nouveau Timothy Dalton. Broccoli n'était pas sûr, vu les nombreux refus de ce dernier depuis toutes ces années, mais toute cette situation avec Brosnan permettra alors à Dalton de se libérer de ses obligations professionnelles et lorsque le rôle lui fut de nouveau offert par Broccoli, eh bien cette fois-ci, l'acteur britannique, qui lui est maintenant âgé de 40 ans, acceptera le rôle. La nouvelle sera donc officiellement annoncée le 7 août 1986. Durant l'automne 1985, suite aux mauvaises critiques de A View to a Kill, Richard Maybaum et Michael J. Wilson commenceront à travailler sur un nouveau scénario qui mettrait alors en vedette un nouvel acteur dans le rôle-titre, permettant ainsi aux deux hommes de rajeunir le personnage et ainsi chercher à moderniser ce dernier. Octopussy and the Living Daylights fut le 14e et dernier livre de la franchise écrit par Ian Fleming. Il fut publié en 1966, soit plus de 2 ans après la mort de l'auteur. Prenant le titre de la courte nouvelle de Living Daylights, qui se trouvait dans le livre, le film fut d'abord conçu comme un prequel à la série, une idée qui sera reprise en 2006 avec le film Casino Royale, qui mettra alors en vedette l'acteur Daniel Craig dans le rôle-titre. Du côté de la distribution pour le rôle de la Bond Girl, ce sera finalement Mariam Dabo, cousine de l'actrice Olivia Dabo, qui obtiendra le rôle et ce alors que Brosnan était encore supposé interpréter le personnage principal. Ce sera Barbara Broccoli, la fille de Dana et Albert, qui, impressionnée par l'audition de la jeune femme, recommandera fortement celle-ci à son père pour le rôle de Cara Milovi. Caroline Bliss, alors âgée de plus de 25 ans, remplacera l'actrice Lois Maxwell dans le rôle de Miss Moneypenny. La jeune femme, qui jusqu'à présent n'était apparue qu'à la télévision, interprétera le personnage seulement dans les 2 films de l'ère Dalton. À l'origine, le personnage du général Gogol devait être beaucoup plus présent dans le film, mais l'acteur Walter Gotell, qui interprétait le personnage depuis The Spy Who Loved Me en 1977, était trop malade pour jouer un rôle si important et n'apparaîtra qu'à la fin du long métrage, présence qui sera sa dernière dans la franchise. Morten Harket, le chanteur du groupe norvégien A-ha, qui performera ici la chanson-thème du film, se verra offrir le rôle d'un vilain, mais ce dernier refusera alors le poste par manque de temps et également parce que ce dernier pensait que Eon Productions voulait profiter de sa popularité et non de ses talents de comédien. Du côté de l'acteur Joe Don Baker, celui-ci fut embauché suite à sa performance dans le film Edge of Darkness, qui fut réalisé par le metteur en scène Martin Campbell, qui lui-même allait réaliser plus tard le film GoldenEye. Finalement, le choix des acteurs Frederick Warner et Glenn Baker dans le rôle des agents 004 et 002 fut véritablement intentionnel, dû principalement à la ressemblance des deux comédiens aux acteurs George Lazenby et Sir Roger Moore. Pour le rôle de l'assassin russe, apparaissant au début du film, se situant au Gibraltar, un cascadeur avait été prévu pour interpréter la scène, mais le réalisateur John Glenn décida qu'il serait préférable d'avoir un véritable acteur pour le rôle. C'est alors qu'il contactera le comédien Carl Rigg, qui à ce moment-là était seul chez lui à s'occuper de son nouveau bébé, alors que son épouse était partie à l'extérieur pour affaires. Après avoir reçu l'appel, Rigg laissera son nouveau-né à un voisin et écrira une note à son épouse pour lui dire qu'il venait d'obtenir un rôle sur la toute nouvelle production de James Bond avant de prendre le premier avion en direction de Gibraltar. Quelques jours avant le début du tournage, Sir Roger Moore recontactera Albert Broccoli et cherchera à reprendre le rôle de l'agent secret 007, celui-ci terriblement déçu du dernier film qu'il avait fait dans la franchise, soit A View to a Kill, et cherchant à terminer sa participation sur une bonne note. Malheureusement pour lui, Broccoli refusera, mettant toute sa confiance dans l'acteur Timothy Dalton. Le film, dont le tournage débutera le 17 septembre 1986, sera filmé en Angleterre, en Autriche, au Gibraltar, à Vienne et à Morocco. Pour la séquence de la chasse du violoncelle, celle-ci prit 3 jours à tourner. Le boîtier du violoncelle dans lequel prenaient place Bond et Cara était fait de fibres de verre et se trouvait monté sur des skis. Durant le tournage, le boîtier avait une tendance à renverser, Timothy Dalton étant nettement plus lourd que Myriam Dabo. Cette séquence fut une création du metteur en scène John Glenn, qui en était ici à sa 4e réalisation en ligne pour un James Bond, après For Your Eyes Only, Octopussy et A View to a Kill. Pour convaincre les scénaristes Maybaum et Wilson, ainsi que le producteur Broccoli, Glenn allait lui-même sauter à l'intérieur d'un véritable boîtier de violoncelle pour prouver que cela pouvait se faire. Dans le long métrage, les vilains du film, Koslov et Whittaker, utiliseront des véhicules identifiés à la Croix-Rouge pour transporter de la drogue, ce qui déplut à l'organisation et qui causera plusieurs plaintes des branches américaines, britanniques et canadiennes. Ce sera pour cette raison qu'un texte d'avertissement apparaîtra au début du film, ainsi que sur les copies VHS et DVD, spécifiant que toutes les actions portées dans ce long métrage et associées avec la Croix-Rouge vont à l'inverse des raisons d'être de cette organisation humanitaire. Même si The Living Daylight sera le dernier film de la franchise avant Casino Royale en 2006 à utiliser le titre d'une nouvelle originale de Ian Fleming, ce film, qui sortira en salle 25 ans après Dr. No, réunira Bond avec une voiture de marque Aston Martin pour la première fois depuis On Her Majesty's Secret Service en 1969. Ce ne sont pas un, mais 2 modèles de la compagnie Aston Martin qui furent utilisés durant le tournage, soit une V8 Volante décapotable ainsi qu'une non-Volante V8 Saloon. La première du long-métrage eut lieu le 29 juin 1987 au Odeon Leicester Square à Londres, première où se représentent le prince et la princesse de Wales, soit Charles et Diana. À sa sortie aux États-Unis, The Living Daylights amassera plus de 11 millions de dollars durant son premier week-end, battant ainsi le record qu'avait réalisé Octopussy en 1983 avec ses quelque 8,9 millions de dollars, mais n'arrivera pas à battre le record de 4 jours qu'avait obtenu A View to a Kill en 85 avec ses quelque 13,3 millions de dollars au box-office. Du côté des points positifs, eh bien, Timothy Dalton prend un certain temps à s'ajuster au personnage de Bond, mais après ça, ce dernier va endosser assez bien le personnage, bien que pas trop à l'aise avec l'aspect humoristique de 007. Dalton, qui se situe plutôt dans la ligne de Sean Connery que celle de Roger Moore. Cependant, le rajeunissement de l'acteur va permettre au personnage de Bond d'être beaucoup plus actif sur l'écran, ce qui devenait un problème pour l'acteur Roger Moore. La réalisation de John Glenn, bien que très mécanique, va quand même être inspirée par l'arrivée d'un nouvel acteur et les scènes d'action sont assez bien mises en scène. D'ailleurs, Glenn va maintenir un rythme suffisant dans son film pour que le spectateur ne se pose pas trop de questions et admire surtout les morceaux de bravoure. La scène de confrontation entre le général Walker et Bond n'est pas sans nous rappeler celle entre Scaramanga et 007 dans The Man with the Golden Gun, alors que la cascade de la séquence finale à bord de l'avion est tout simplement époustouflante. Du côté des points négatifs, eh bien, Dalton apporte une certaine humanité au personnage, mais je trouve ici que ce Bond est un petit peu trop visuellement émotif, ce qui est un petit peu déplacé pour un agent dont la mission est de tuer sa cible sans émotion. De plus, l'intrigue est quelque peu simpliste pour un film de Bond, ce long métrage possédant pas réellement un vilain dangereux ou un plan de conquête grandiose, ce qui cause par moments quelques longueurs par manque de séquences d'action. Du côté de la composition musicale, eh bien, c'est encore John Barry qui est présent, lui qui a donné des musiques de films pour des films tels « Somewhere in Time »,« Out of Africa » ou encore « Goldfinger ». Il s'agira ici d'ailleurs de la dernière fois où le compositeur américain composera une trame sonore pour le personnage de Bond. Durant la réalisation de cette trame sonore-là, eh bien, disons que la relation d'affaires entre le groupe norvégien AA et Barry ne sera pas extraordinaire et ça va résulter à la création de deux versions de la chanson thème de Living Daylights. La première version étant celle de Barry qui va apparaître sur la trame sonore officielle du film, alors que celle du groupe AA, du moins celle qui était favorite au groupe AA, elle sera mise sur leur album Stay on These Roads qui sortira sur le marché en 1988. The Living Daylights marquera également la première fois de la franchise où un film de James Bond aura deux chansons thèmes, la seconde jouant durant le générique de fin et s'intitulant If There Was a Man et interprétée par le groupe The Pretenders. Pour la trame sonore, eh bien celle-ci sera distribuée sous l'étiquette Warner Bros. Le 20 janvier 1989 en CD et en cassette 4 pistes. Vous aurez une Remastered Edition qui sortira sous l'étiquette Capitol Records le 11 février 2003 en CD. Et il y aura également une Extended Edition qui sortira sous l'étiquette Rideau Disc le 9 juin 1998. Je vous présente ici la chanson de Living Daylights.
And now, intermission. Refreshment time.
See what I get from the refreshment counter. Oh boy, popcorn and candy bars and ice cream and oh boy, sparkling ice cold Coca-Cola. Oh boy, that tastes good. Have you been to the refreshment counter?
If you just sign here, Mr. Bond. It's the insurance damage waiver for your beautiful new car. Will you need collision coverage?
Yes.
Fire?
Probably.
Property destruction?
Definitely.
Personal injury?
I hope not, but accidents do happen.
They frequently do with you.
Well, that takes care of the normal wear and tear. Do I need any other protection?
Only from B007, unless you bring that car back in pristine order. Shall we?
Shall we?
Ours, as you know, is not a perfect world. May I? That's why it's so refreshing when something really perfect comes along. Like Diet Coke. Tastes great straight. Or on the rocks. Yet it's just one calorie. That's why Diet Coke is the perfect soft drink. An imperfect world.
W0, cette télécopie n'est pas comme les autres. On peut écrire dessus, elle a l'apparence du papier ordinaire. Mais c'est un télécopieur Canon, alors il s'agit bien de...
Bande de papier Bond.
Précisément.
Les télécopieurs Canon reproduisent sur papier Bond ordinaire.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
The coming attraction.
And now, on with the show.
Que j'ai bien compris. Il faisait du ski nautique derrière l'avion. Et il a bondi dessus.
Non. Il a fait... non. Enfin, oui, il a... Il a balancé les pilotes et il a pris la fuite.
Comme un oiseau.
Ben, je n'aurais pas inventé cette histoire.
Je vous le donne en mille. Vous savez qui est ce type ?
Il est sans limite.
Je vous retire votre permis de tuer. Exécution.
Au-dessus des lois. Il opère en solo. Tout à sa vengeance. Timothy Dalton et James Bond, 007 dans Permis de tuer.
License to Kill, ou Permis de tuer, est un drame d'espionnage américain et mexicain qui fut produit et distribué par les studios Metro Goldwyn Mayer et qui sortira en salle le 14 juillet 1989. Ce film d'une durée de 133 minutes coûta 32 millions de dollars à la production et ramassera plus de 156,1 millions de dollars au box-office nord-américain.
À la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique John Glenn, lui qui a réalisé des films comme Octopussy, For Your Eyes Only et The Point Men. Au niveau du poste de producteur, encore une fois, on y retrouve Albert Broccoli ainsi que Michael J. Wilson. Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve encore une fois les scénaristes Richard Maybaum et Michael J. Wilson. Dans la distribution, eh bien, toujours Timothy Dalton qui occupe le poste de James Bond 007. Il sera accompagné de l'actrice Carrie Lowell, de l'acteur Robert Davi, de Talisa Soto, Anthony Zerbe, Everett McGill, Frank McRae, Desmond Llewellyn, Caroline Bliss dans le rôle de Miss Moneypenny, Benicio del Toro, Priscilla Barnes et David Edison dans le rôle de Felix Leiter. Lorsqu'un agent britannique apprend qu'un puissant trafiquant de drogue a échappé à la police américaine suite à son arrestation, celui-ci craint pour la vie de son ami, nouvellement marié, travaillant pour le FBI et responsable de l'arrestation du criminel. Découvrant que la nouvelle épouse de celui-ci a été assassinée et qu'il a été gravement mutilé par un requin, gracieuseté du criminel, James Bond se lance alors aux trousses du caïd, malgré que son permis de tuer ait été révoqué parce qu'un agent secret n'a pas le droit d'agir pour des motifs personnels. 16e film de la franchise, License to Kill sera le second et dernier film de la série 007 pour l'acteur britannique Timothy Dalton. Ce sera également la fin d'une ère, puisque ce sera le dernier film pour le réalisateur John Glenn, dont il s'agit ici du 5e Bond en ligne, de l'acteur Robert Brown, qui interprétait le personnage de M depuis Octopussy en 83, de l'actrice Caroline Bliss dans le rôle de Miss Moneypenny, du scénariste Richard Maybaum, qui décédera en 1991 et qui avait travaillé sur la franchise depuis le tout début, soit Dr. No, tout comme le concepteur des génériques de Bond, Maurice Binder, qui décédera également en 91. Binder fut le créateur de la fameuse introduction du Gun Barrel en 1962 pour Dr. No et réalisera presque la totalité des génériques de début de film de la franchise. Ce sera également la dernière présence dans la franchise du caméraman et directeur de la photographie Alec Mills et finalement du producteur Albert R. Broccoli, dont la santé était nettement en déclin et qui décédera 5 ans plus tard, soit en 1996. License to Kill sera également le premier film dont le titre ne sera pas pris d'une nouvelle de l'auteur Ian Fleming, malgré que le scénario contiendra des éléments des nouvelles Live and Let Die, écrites en 1954, et de la courte histoire The Aldebrand Rarity, qui avait, elle, été écrite en 1960. Ce sera également la dernière fois que l'on verra le personnage de Felix Leiter dans la franchise, et ce jusqu'en 2006, où ce dernier réapparaîtra dans le film Casino Royale. D'ailleurs, ce sera l'acteur David Edison qui reprendra le rôle de l'agent du FBI, rôle qu'il avait lui-même tenu dans le film To Live and Let Die en 1974. À l'origine, le film était intitulé License Revoked, mais ce dernier sera changé au dernier moment par License to Kill parce que l'auditoire test américain associait le titre avec un terme nord-américain lié à la perte du permis de conduire d'un individu. Une autre raison pour ce changement de titre, c'est qu'on voulait éviter toute confusion avec un autre roman de James Bond qui lui avait été écrit en 1981 par l'auteur John Gardner et qui était intitulé « License Renewed ». Au niveau budgétaire, Broccoli et Wilson payaient encore les excès de Moonraker et avec les restrictions budgétaires auxquelles ils faisaient face pour « License to Kill », la décision fut rapidement prise de tourner le film entièrement aux États-Unis et au Mexique, faisant de cette 16e aventure de Bond la toute première fois de la franchise qu'aucune séquence ne serait tournée sur le territoire britannique. Les studios Pinewood seront quand même utilisés, mais uniquement pour la post-production et le montage sonore du long métrage. Peu de temps après la sortie du film The Living Daylights, en 87, les producteurs Albert R. Broccoli et Michael J. Wilson, ainsi que le scénariste Richard Maybaum, commencèrent à discuter des changements qui seraient apportés au personnage de Bond, donnant à ce dernier un style beaucoup plus réaliste et plus brutal, avec en tête le tempérament renfermé et sérieux de Timothy Dalton, ce qui amènera une violence beaucoup plus graphique que les films précédents. L'écriture du scénario, elle, fut très complexe. En effet, les lignes directrices furent rapidement écrites par Michael Wilson et Richard Maybaum, mais la grève des scénaristes orchestrée en 1988 par la Writers Guild of America empêchera Maybaum de poursuivre son travail, obligeant Wilson de travailler seul sur le scénario. À cause de cette problématique, le scénario ne sera pas prêt à temps pour les auditions qui durent débuter sans ce dernier. L'actrice Carrie Lowell obtiendra d'ailleurs le rôle de Pam en récitant des lignes prises dans le scénario de A View to a Kill durant son audition. Du côté inspiration, Wilson puisera celle-ci à travers les longs-métrages Yojimbo, écrit par Akira Kurosawa, et le remake de ce dernier réalisé par Sergio Leone, A Fistful of Dollars. À l'origine, le film devait débuter en Chine et inclure une incroyable poursuite en moto sur le célèbre mur de Chine, mais des complications de logistique de production et le fait que le gouvernement chinois demandait un droit de veto sur l'écriture du scénario forceront la production à changer de concept. À cause des problèmes actuels reliés au monde du cartel de la drogue, Wilson et Maybaum décideront alors que la nouvelle direction plus rude de Baum irait bien avec cette idée d'être confrontée à ce fléau des années 80 qui fut abordé dans d'autres films d'action tels que Lethal Weapon, Beverly Hills Cop et surtout Robocop. Au niveau de la distribution, Gene Simmons du groupe KISS se verra offert le rôle principal du méchant, mais dut refuser à cause du conflit d'horaire avec ceux du groupe rock. C'est alors que la fille d'Albert Broccoli lui fit la suggestion de l'acteur Robert Davey pour interpréter Frank Sanchez, dont le nom était un hommage au chanteur Frank Sinatra, grand fan de la franchise de l'agent 007 et ami non seulement d'Albert Broccoli, mais également de Robert Davey. De plus, Davey s'amusera même à jouer le personnage de Bond durant les auditions pour trouver l'actrice qui interpréterait le personnage de sa compagne, Lupe Lamora, surprenant le réalisateur et les producteurs, ceux-ci trouvant qu'il était excellent dans le rôle. C'est d'ailleurs Davey qui choisira l'actrice Talisa Soto, disant à Albert Broccoli qu'il serait prêt à tuer pour cette dernière. À 21 ans, Benicio del Toro sera le plus jeune acteur à interpréter un vilain dans la franchise. Il s'agit ici de son deuxième rôle en carrière sur le grand écran, ce dernier ayant apparu précédemment dans Big Top Pee-wee en 1988. John Rhys Davies se verra offrir de reprendre le personnage du général Pushkin, qu'il avait tenu dans le film The Living Daylight, mais dut refuser car il travaillait à ce moment-là sur la production d'Indiana Jones and the Last Crusade. Le tournage débutera au Mexique le 18 juillet 1988 et se conclura le 18 novembre de cette même année. C'est durant la production que le producteur Albert Broccoli tombera sérieusement malade, marquant ainsi la toute première fois depuis le début de la franchise que le producteur ne sera pas présent sur le plateau de tournage. D'ailleurs, la famille Broccoli s'arrangera pour qu'une équipe médicale soit envoyée sur place lorsque plusieurs autres membres de l'équipe de production auront de sérieux problèmes respiratoires dus à l'attitude et à la pollution de l'air de Mexico City. Durant la production, l'actrice Carrie Lowell, que tout le monde appelait Pambo, sur le plateau de tournage, car cette dernière réalisait elle-même ses séquences de combat, avait le défaut de fermer les yeux à chaque fois qu'elle se servait d'une arme à feu et dut recevoir un entraînement spécial afin de se débarrasser de cette manie. Du côté de David Edison, une des cascades l'impliquant au début du tournage tournera mal lorsque le harnais de son parachute se défera tout seul, ce qui provoquera la chute de l'acteur directement sur le pavé de l'église où la séquence avait lieu. Cela forcera Edison à boiter pour le reste de la production. Au niveau des effets visuels, plusieurs scènes demeurent spectaculaires dans leur conception, telles que celle où un avion sera remorqué en plein vol par un hélicoptère, scène où une réplique grandeur nature de l'avion fut réalisée par le concepteur des effets spéciaux John Richardson. Pour la scène finale, plus de 16 camions 18 roues furent modifiés et utilisés pour le tournage, et ce à la demande du cascadeur Rémi Julienne. Une de ces modifications fut l'installation d'un second volant situé dans le fond de la cabine de pilotage, juste en arrière de l'actrice Carrie Lowell, pour que le cascadeur puisse conduire le camion au lieu de l'actrice. La MPAA demandera la coupure de plus de 36 secondes de film, notamment durant la séquence de la mort du personnage de Milton Kress, dont la fausse tête créée par John Richardson ici était si réaliste qu'elle causera quelques problèmes au niveau de la censure. Il s'agira d'ailleurs ici du tout premier James Bond de la franchise à ne pas recevoir une cote pour tous. Le film aura de nouveau sa première au Odeon Leicester Square à Londres le 13 juin 1989 et deviendra le 7e film le plus populaire au box-office britannique de l'année 1989. Cependant, les recettes nord-américaines furent parmi les plus faibles de la saga, la compétition étant féroce cette année-là avec des films tels que Lethal Weapon 2, Ghostbusters 2, Indiana Jones and the Last Crusade et surtout Batman de Tim Burton. Au début des années 1990, Timothy Dalton pensait abandonner le rôle de Bond, mais finalement l'envie de revenir pour une troisième et dernière fois lui viendra et c'est alors qu'il contactera Albert Broccoli à ce sujet. Malheureusement, à cause d'un désaccord entre la MGM United Artists qui distribuait les films de James Bond et la firme Dame Jack qui appartenait au producteur Albert Broccoli et qui s'occupait à la production des films, cela ne fut pas le cas. En effet, la MGM avait été rachetée par une entreprise, devenant la MGM Pathé Communications, avec l'intention de brader une partie de son catalogue, qui incluait d'ailleurs les films de Bond, pour faire rentrer rapidement de l'argent dans ses caisses afin de payer son investissement, et ce, sans même payer son dû à la compagnie Dame Jack. Albert Broccoli et sa fille Barbara s'y opposeront alors vivement au point d'aboutir à un procès. En 1993, la MGM va retrouver son nom à l'aide d'un nouvel acheteur, le Crédit Lyonnais, tandis qu'un nouveau James Bond sera alors mis en chantier. Avec une distance de plus de 6 ans entre License to Kill et le prochain film de la saga, soit GoldenEye, Broccoli, qui désirait que Timothy Dalton soit présent pour plus qu'un film, forcera l'acteur dont le contrat avait expiré de se retirer du rôle, laissant la place à son successeur qui deviendra l'acteur Pierce Brosnan. Si les problèmes entre les Broccoli et la MGM ne seraient pas survenus, Dalton aurait fort probablement interprété le personnage légendaire pour au moins un autre film, puisqu'à l'époque, Michael Wilson travaillait à l'écriture d'un scénario de Property of a Lady avec l'assistance du scénariste Alphonse Ruggiero, le tournage devant débuter durant l'année 1990. Du côté des points positifs, eh bien, l'attrait principal de License to Kill vient des cascades efficaces et tout simplement spectaculaires présentées tout au long du long-métrage. On assiste ici à une aventure beaucoup plus personnalisée pour Bond, ce qui nous permet de voir les attraits de Dalton utilisés au maximum ici. Le film utilisant beaucoup plus la dureté du visage et du regard de l'acteur pour nous présenter un Bond qui est beaucoup plus sérieux et vengeur, un style qu'on n'était pas habitué de voir jusqu'à présent et qui va ouvrir les portes pour l'acteur Daniel Craig au milieu des années 2000. On va d'ailleurs ici oublier les blagues présentant un Bond qui va être nettement plus agressif et physique que tous les autres films de la franchise jusqu'à présent. Du côté de Q, eh bien, celui-ci apporte au film un aspect comique qui est assez inattendu, alors qu'auparavant, sa présence n'était qu'épisodique. Ça fait du bien de le voir en action hors de son laboratoire. Du côté du reste de la distribution, écoutez, celle-ci est impeccable, notamment Davy dans le rôle du vilain, qui est ici un véritable adversaire pour Bond. Pour Carrie Lowell, eh bien, disons que bien qu'elle n'est pas nécessairement la meilleure Bond girl de la franchise, elle est parfaite ici et va compléter très bien Timothy Dalton au niveau de son style et au niveau de l'action. Pour moi, il s'agit ici d'un des meilleurs Bonds de la série, n'ayant pas peur d'explorer un côté jusque-là non exploré de l'agent 007. D'ailleurs, le film va divertir principalement grâce à un montage qui va être très serré et à des cascades, comme je disais tout à l'heure, très spectaculaires et fort efficaces. De plus, le film va nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin grâce à une action qui est continue, le long métrage étant beaucoup plus dirigé vers un auditoire beaucoup plus adulte à cause de sa violence plus graphique que les films précédents. Mais du côté des points négatifs, je vous dirais que le premier point, qui est probablement le point le plus important, c'est le personnage, justement, de l'actrice Carrie Lowell. Un personnage qui, malgré le fait que l'actrice s'en sort très bien au niveau de l'interprétation de ce personnage-là est un personnage instable. Par moments, c'est une femme forte qui n'a pas besoin de bombe, puis par d'autres moments, cette dernière va tout simplement s'écrouler notamment dans une séquence où celle-ci va découvrir que Bond la trompe avec la femme de Sanchez, ou encore qu'elle accepte tout simplement de suivre les directives de Bond sans même rouspéter. C'est triste de voir un personnage qui est si fort être totalement démoli par une écriture qui est timide et qui semble avoir peur de créer un personnage féminin fort à un point tel qu'il pourrait éclipser la présence du héros à l'écran. Son personnage, qui est un agent américain, se verra alors doté de réactions enfantines et de jalousie de petites gamines d'adolescentes qui feront d'elle probablement une des Bond Girls dont la présence et les objectifs seront les plus inutiles dans la franchise. Ici, le spectateur ne sera pas témoin d'une mission de Bond, mais plutôt d'un règlement de compte, ce qui pourrait décourager certains amateurs de la franchise. Un autre aspect qui pourrait choquer les amateurs de la franchise, c'est la violence beaucoup plus présente et graphique ici que dans les films précédents. La réalisation est quelque peu inégale, par moments tout à fait spectaculaire, mais par d'autres totalement inerte et irréfléchie. On pense juste ici à cette séquence finale où le personnage de Félix est à l'hôpital et qu'il parle à James Bond avec un large sourire alors que ce dernier vient tout juste de perdre sa femme qu'il venait d'épouser et une partie de sa jambe. To Come Diamond Are Forever, License to Kill a un style très nord-américain, ce qui le différencie des autres films de la saga et qui, par moments, nous donne vraiment l'impression d'écouter un film d'action typiquement américain. De plus, je vous dirais que la trame sonore de Michael Kamen, qui est d'abord trop omniprésente, fait beaucoup trop Lethal Weapon ou encore Die Hard, deux autres compositions du même compositeur de musique. Donc, cette musique-là de Kamen va non seulement nous rappeler les films dont je viens de vous donner les titres, soit Die Hard et Lethal Weapon, mais en plus, ça va accentuer cette impression de style nord-américain dans cet épisode de 007. Du côté de la musique, donc, comme je disais, c'est Michael Kamen, lui qui nous a donné Die Hard, Lethal Weapon, The Dead Zone, Highlander et Life Force, qui s'occupe ici de la musique du film et qui prend la place de John Barry. Barry qui avait annoncé sa retraite, notamment à cause de ses problèmes avec le groupe AA pour l'écriture de la chanson de Living Daylight, mais également par le fait que le compositeur américain subissait une intervention au niveau de la gorge qui l'empêchera ici de participer à la trame sonore du film. La chanson thème de License to Kill de la chanteuse Gladys Knight sera la plus longue chanson thème de toute la franchise. Pour la chanson du générique final, If You Ask Me To, cette dernière sera interprétée par la chanteuse Patti LaBelle, chanson qui deviendra un hit imprévu malgré le fait que la chanson ne sera pas annoncée dans le générique d'introduction du film. La trame sonore sera disponible en CD et en cassette 4 pistes. Cette trame sonore qui sortira sous l'étiquette MCA le 19 juin 1989. Je vous présente ici la chanson thème « License to Kill ». Baby.
Yes, you do.
You sigh.
Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right.
Des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté The Living Daylights 4. Je lui donne également une cote 4. Même chose du côté du film License to Kill. Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec une cote 4. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, du côté de Living Daylights, la régie du cinéma a coté le film général. Pour tous, c'est l'âge que je lui donne également. Il y a quelques séquences de violence, mais rien de graphique. Cependant, du côté de License to Kill, on y voit avec une cote 13 ans indicative du côté de la régie du cinéma. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence. Du côté du DVD et du Blu-ray disc, eh bien, écoutez, le film est disponible dans les deux langues, français et anglais. C'est très difficile de ne pas se trouver du James Bond dans la version française et anglaise. Il n'existe pas encore de copie 4K, mais je suppose que c'est quelque chose qui va survenir bientôt. Mais vous êtes quand même capable d'avoir une très bonne qualité avec le DVD et surtout le Blu-ray qui sont disponibles, les deux, sur le marché actuellement.
C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.